Frères et amis en Christ, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui notre sœur Aïchaz pour cette émission mensuelle. Racontez-moi Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, elle reçoit Alice Arnaud.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur notre émission Racontez-moi Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, nous recevons Alice Arnaud. Bonjour Alice.
Bonjour Raï.
Et Alice est à Tahiti depuis un moment et ce que je sais, c'est qu'elle aime Dieu de tout son cœur et nous allons découvrir ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors, présente-toi, s'il te plaît.
Alors, pour me présenter rapidement, voilà, moi, ça fait 3 ans maintenant que je suis à Tahiti. Je travaille à la radio depuis pas longtemps. Je suis surtout bénévole à la radio depuis quelques temps, depuis 2 ans peut-être, quelque chose comme ça. Je suis aussi bénévole à l'Ordre de Malte, qui est une association qui œuvre aussi sur le territoire, dont les locaux sont à l'évêché. Donc l'évêché est un endroit que j'apprécie beaucoup. Je consacre beaucoup de temps pour ces associations, mais avant ça, je travaillais dans l'éducation. Donc j'ai eu l'occasion de donner des cours à l'ICEP sur tout ce qui est communication. Puisqu'en fait, mon cœur de métier, c'était, même si là je touche à différentes choses, mais c'était la communication au sens très large, tout ce qui est numérique, information, etc.
Voilà. Si je me souviens bien, tu étais venue ici dans un but précis.
Alors, je suis arrivée ici, j'aime bien dire par hasard, mais quand on aime Dieu et quand on vit avec lui, on sait qu'il n'y a pas de, pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Je suis arrivée à Tahiti. Mon point de chute prévu au départ, c'était la Nouvelle-Calédonie et je voulais voyager un petit peu plus dans le monde. Après les JMJ de Panama en 2019... mes voyages m'ont fait arriver à Tahiti et c'est en arrivant ici avec les conseils de beaucoup d'amis, avec des rencontres ici aussi, que j'ai décidé de me consacrer à ce... Bah, le projet dont tu parles justement, c'est l'éducation. Oui. Je ressentais comme... je vais pas dire un appel parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, c'était pas le même appel, mais un désir, on va dire, de travailler pour l'éducation qui était très fort. Et j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, adolescents et surtout ce qui est sujet numérique. Et notamment, j'avais commencé une thèse sur ces sujets-là, sur les adolescents et le numérique, qui s'est arrêtée assez rapidement. Mais voilà, quand je suis arrivée à Tahiti, c'était ça les projets.
C'est ça. Ok, donc on va commencer par parler de ton enfance, puisque on veut connaître le chemin de Dieu dans ta vie. Oui. Est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne, chrétienne et priante, ou peut-être pas priante mais chrétienne, ou dans une famille pas du tout concernée par les religions?
Alors, j'ai grandi dans une famille catholique. Mes deux parents, donc mon père et ma mère, sont catholiques, croyants, pratiquants. Et c'est une force immense pour toute la famille. Vraiment, ça, je rends vraiment grâce à Dieu pour eux, parce qu'ils m'ont, à moi et à mes frères et sœurs, beaucoup transmis. Donc mes frères, j'ai un frère et deux sœurs qui ont eux aussi leur chemin de foi, donc, là, qui ne sont pas forcément croyants aujourd'hui, mais qui ont leur chemin. Mais on a des parents qui vont à la messe tous les dimanches. J'ai particulièrement ma mère, mon père travaille encore, ma mère est à la retraite anticipée, mais elle va à la messe tous les jours quand elle en a le temps. Et ce sont tous les deux c'est vraiment un couple chrétien qui ont beaucoup œuvré dans différentes associations, notamment des associations avec de l'accueil de personnes handicapées. Donc c'est très, très jeune, en fait, on a appris, moi et mes frères et sœurs, on a appris à accueillir la différence,
à servir,
accueillir la différence. Et en fait, toujours avec l'amour de Dieu qui était vraiment, vraiment présent. Après, on n'avait pas, au sein de la famille, on n'avait pas un rythme de prière familial. Et ça peut-être... je pense qu'ils ont essayé peut-être à quelques reprises. Après, on était des enfants pas très, pas très obéissants ou un peu capricieux peut-être parfois. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens que de temps en temps, on avait les pains de la parole à table ou on faisait quelques bénédicités à table, mais ça c'était vraiment quand on était enfant. Très vite, je pense, quand on est rentré à l'adolescence, la vie de prière familiale a commencé à disparaître petit à petit, même si on a continué à aller à la messe le dimanche en famille.
Ah, oui.
Donc ça c'est vraiment...
Au moins vous aviez ça.
Au moins, on avait ça. Oui. Et alors, je précise, parce que la famille, c'est les parents, les frères et sœurs, mais c'est aussi plus largement voilà, les oncles, les tantes, les grands-parents.
Oui.
Et j'ai le père de ma mère était diacre. Et je pense que sa prière et son engagement a aussi énormément porté la famille dans la foi. Mon parrain, qui est avec Dieu aujourd'hui, était aussi très croyant et a beaucoup partagé dans sa manière de vivre sa foi, le sens du service et de l'amour, vraiment l'amour. Et j'ai une marraine aussi qui a vécu consacrée dans les foyers de charité. Et donc elle aussi, en étant consacrée, quelqu'un de très priante. Donc tout ça pour dire que j'ai eu quand même une grande bénédiction de grandir avec une famille croyante.
Oui, Vous avez senti la présence de Dieu dans votre enfance ou été attiré à un sacerdoce éventuel ou un
alors,
appel?
Enfant, je dirais non. Parfois, j'ai l'impression d'avoir peu de souvenirs de vraiment enfant, mais c'est... Je sais que mon adolescence a été très difficile pour moi de vivre. Voilà, mon adolescence a été un passage vraiment compliqué, moralement et pour plein d'autres raisons aussi. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que Dieu a toujours été près de moi.
Mmh.
Et notamment à travers des événements. Et par rapport à l'appel, je ne me rendais pas compte, enfant. Mmh. Je ne me rendais vraiment pas compte. Mais par rapport à l'appel, j'ai eu cette chance, donc j'habitais en région parisienne, de participer à beaucoup d'événements qui étaient organisés. Il y avait des pèlerinages pour la Pentecôte, des pèlerinages quand il y avait une occasion. J'ai eu l'occasion de faire des pèlerinages à Lourdes avec 10 000 jeunes adolescents qui partaient de la région parisienne. Tout ça, c'est des chances extraordinaires.
Mmh.
Et en fouillant dans des cartons récemment, ma mère a retrouvé un petit évangile qu'on nous avait distribué à un pèlerinage de la Pentecôte, où j'avais écrit avec une main d'enfant « Cet évangile appartient à Alice et c'est très important pour elle.
Oh. »
Voilà, des petites choses comme ça.
Incroyable.
Et maintenant, quand je vois avec le recul, je fais « Mais c'est vrai que, adolescente, ceux qui me connaissaient dans la vie quotidienne adolescente auraient du mal à croire que j'avais Dieu dans ma vie. J'avais vraiment pas une vie catholique du tout.
Mmh. »
Et pourtant... Par ces événements, ces temps forts de pèlerinage ou de retraite pour les adolescents, il y avait beaucoup de retraites organisées pour les adolescents, une semaine de vacances où on va à la messe tous les jours, où on prie Dieu. Et ben ces moments-là, je pense, m'ont vraiment nourri spirituellement, à mon insu.
Oui, voilà, et vous ont façonné à votre insu.
C'est ça, et c'est vraiment façonné, c'est vraiment le bon terme, parce que maintenant, avec le recul, je me rends compte que malgré tous mes travers dans mes cheminements, Dieu a toujours été là et m'a façonné petit à petit, jusqu'à ce que je le découvre davantage. Mais cette enfance, ça s'est vraiment fait dans le secret, j'ai l'impression. Il était là, moi je ne m'en rendais pas compte, mais il était là, il était vraiment là.
Avez-vous une anecdote, une petite histoire?
J'en ai une. Mais c'est des anecdotes, oui, c'est vrai que c'est assez amusant. Adolescente, donc je me souviens encore de cette époque où j'avais la mèche qui prenait la moitié du visage parce qu'il fallait cacher les boutons. j'étais en vacances avec les parents. Donc en vacances avec les parents, c'est pas avec les amis aller boire des coups. Donc je faisais la tronche. Enfin, j'étais vraiment d'une humeur pas très joyeuse pour la famille, je pense. On a passé une nuit, je me souviens plus exactement, mais c'était dans une abbaye en Bretagne. Je me demande si c'était pas à Landévennec ou quelque chose comme ça. Bref, en Bretagne, il y avait mes parents, mon père, ma mère, mon grand frère et ma petite sœur. Et on était dans un grand dortoir. C'était juste le temps d'une nuit. On avait eu les célébrations. Et cette nuit-là, tout le monde dormait, sauf ma mère et mon frère. Et a priori, pendant la nuit, je me suis levée. Moi, je m'en souvenais pas. Hein. Je me suis levée, je me suis assise sur mon lit. Et j'ai commencé à dire « Ah, mais je kiffe la messe. Tu connais pas la messe ? Ben, je vais te raconter. » Et puis, je me suis rallongée. Et le lendemain, ma mère, avec un grand sourire, elle me fait « Alice, ça veut dire quoi, kiffer ?» Parce qu'elle connaissait pas le vocabulaire,
oui.
Le nouveau vocabulaire chez les jeunes. Et elle me disait, ça veut dire quoi? Je fais, bah, ça veut dire aimer, pourquoi? Elle fait, et il y a mon frère qui rigole à côté, il fait, parce que cette nuit, t'as parlé dans ton sommeil. Et voilà, et c'est voilà, des moments comme ça où je me dis, mais Dieu, il était déjà avec moi à l'intérieur de moi. Ouais. Il avait sûrement sa manière de s'exprimer, je ne sais pas comment, mais voilà, c'est vraiment des moments de grâce. Et je pense vraiment que les lieux de culte, moi je pense ici à Tahiti, j'ai vraiment profité du monastère des Sœurs Clarisses, mais je pense que des lieux, donc il y a toutes nos églises qui sont sacrées avec la présence du Saint-Sacrement, les chapelles, mais tout ce qui est lieu d'abbaye, lieu de retraite, des lieux de prière, de silence, de recueillement. Moi, je pense au foyer de charité où j'ai passé beaucoup de temps, les abbayes où mes parents nous ont emmenés à plusieurs reprises, c'est des lieux qui sont vraiment de ressourcement.
Oui, c'est vrai et c'est important ce que tu dis. J'entendais quelqu'un parler de tous ces lieux, les églises, etc. Même des églises qui nous semblent un peu mortes, ce sont des parties du royaume de Dieu.
Oui.
Et c'est important de s'y rendre autant qu'on veut. Ou voilà.
Dieu est avec nous. Oui. Dieu est avec nous dans ce monde.
Exactement.
Et il est avec nous partout. Dans notre quotidien, il est tout le temps avec nous. Mais ces lieux-là, voilà, c'est des lieux de recueillement, je pense, où on communique davantage avec Dieu et qui sont merveilleux.
Ce sont des lieux où on a beaucoup prié. Donc il y a un esprit de prière ou d'adoration, de louange qui demeure. Mm. Oui. Yes. On a encore 2 minutes pour cette partie de l'enfance. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie?
Alors, mon père est ingénieur et d'ailleurs, tiens, ça va me faire plaisir d'en parler parce que mon père a beaucoup travaillé pour la famille. Il y a des moments où il travaillait, on le voyait moins parce qu'il travaillait vraiment beaucoup. Et je me rends compte, pareil, avec le recul maintenant et surtout maintenant qu'on peut discuter professionnellement avec mon père, on peut discuter de nos expériences de vie avec les collègues, etc. Je me rends compte à quel point c'est quelqu'un de très doux. Et je pense que dans son management, parce qu'il avait beaucoup d'équipes, il organise des projets, etc. Il a ce côté vraiment doux et bienveillant. Et je pense que la prière et sa foi l'aident très certainement dans son travail. Donc il est ingénieur agronome et travaille dans le traitement des eaux. Et j'adore aussi sa manière de vivre son métier parce qu'il va vous parler du cycle de l'eau avec un tel respect de on prend l'eau pour l'utiliser, il faut la rendre aussi pure qu'on l'a prise, donc le cycle est vraiment à préserver. Voilà, et j'ai toujours admiré sa manière de travailler et de voir les choses, surtout aujourd'hui. Et ma mère était sage-femme, donc beaucoup, voilà, beaucoup dans le soin. Elle avait beaucoup d'amour aussi dans son métier, donc elle a pris sa retraite anticipée pour différentes raisons et parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Quand elle a pris sa retraite, elle a fait un mémoire de recherche, elle a repris un master pour travailler notamment, j'en parle comme ça parce que ça me fait plaisir, sur les soins palliatifs dans le cadre des décès d'enfants en fait en maternité, et pour dire voilà que cet accompagnement de la vie et de la mort, dans son métier professionnel, c'était une question qui vraiment se posait. Et donc, je me rends compte que ça, c'est une grande grâce aussi de la part de Dieu, c'est de m'avoir donné des parents avec qui échanger sur tous ces sujets-là, et c'est extraordinaire.
On va faire une petite pause musicale. Merci Alice pour ce passage sur l'enfance. la présence de Dieu durant toute ton enfance, même si, comme toi, on ne s'en rend pas compte, on n'est pas conscient de sa présence. Maintenant, tu es jeune fille, tu as 18 ans. Où es-tu et que fais-tu ?
Alors, 18 ans, c'est vrai que c'est une année charnière pour moi, puisque, donc, comme je disais avant, mes années lycée, mes années d'adolescence, mais surtout mes deux dernières années du lycée, donc j'avais pas trop le moral, sans raison particulière. Voilà. Disons que j'étais malheureuse. Et hélas, comme dans beaucoup de situations, on se réfugie beaucoup dans l'alcool. Je fumais énormément, je fumais beaucoup de cigarettes, un peu de paca aussi, il faut bien l'avouer, j'avais pas des bonnes fréquentations. Et à mes 18 ans, je sentais que la région parisienne, enfin là où j'habitais, voilà, j'arrivais pas à me développer bien. Je voulais partir, je suis allée faire mes études dans une autre ville, à Angers. Et dans les premiers mois, ça avait été chaotique, puisque d'un coup, j'avais plus le rythme familial, les parents. J'étais, moi, étudiante, dans ma petite chambre étudiante, et du coup, j'étais libre, totalement libre. Il n'y avait plus la question de la messe le dimanche. Moi, le week-end, je ne rentrais pas chez mes parents. Et là, j'ai sombré. Donc, dans une vie étudiante qu'on pourrait dire totalement normale, c'est-à-dire que je sortais tous les soirs. Mais c'est vrai que je tiens à le préciser, enfin avec une grande quantité d'alcool, cigarettes, etc. Je le dis parce que je pense qu'on est beaucoup à passer par ces périodes-là, surtout aujourd'hui où c'est voilà, l'alcool, c'est pas c'est très accessible, très jeune, et en fait on peut en consommer des quantités assez facilement et ça détruit, ça détruit déjà physiquement et en fait ça fait broyer du noir énormément.
Justement, je voulais revenir un peu en arrière. Oui. Tu disais que tu avais une petite dépression au départ. Elle était causée par quoi, ou elle a été causée à cause de ce mode de vie différent
et... Non. Oui, enfin, excuse-moi. Oui. C'est pas le mode de vie qui l'a causée. Le mode de vie m'a plongée dedans. Le mode de vie m'a plongée dedans. Oui. Ce qui l'a causée, c'est que j'ai eu une expérience de stage professionnel et en fait, ça s'est globalement très bien passé. Mais disons que j'avais pas de passion. J'avais une passion qui était le théâtre, mais j'avais raté un concours qui était trop exigeant pour moi dans tous les cas. Mais ouais, j'avais aucun projet de vie, en fait.
Ah, voilà,
j'avais pas de passion.
Pas de direction.
J'avais pas de direction, j'avais pas de passion, pas d'envie, pas de je vais faire quoi dans ma vie, je sais pas. Enfin, voilà, j'étais perdue. Les relations amicales étaient tendues. Et puis, adolescent, on découvre la puberté aussi. Et donc, il y a la question de l'attirance avec les hommes. Et puis, moi, je sais que voilà, j'ai eu ce gros péché, en tout cas dans mon adolescence et début de vie d'adulte, mais j'étais perdue. Ma vie n'avait aucun sens. Et donc voilà, je dis, c'est vraiment une période pour moi de débauche, mais en fait de tristesse, parce que j'avais pas de vie, pas de but,
pas de sens.
Et pas d'espérance. Voilà. Et j'avais aucune espérance d'en trouver un. Et ça fait toute la différence. Parce que après, j'ai aussi eu des moments de doute et de complications de vie, etc. Mais marcher avec Dieu m'a toujours donné de l'espérance. Et à ce moment-là, j'avais perdu l'espoir. Et c'était terrible. C'était terrible au point que ma rencontre avec le Christ, je l'ai faite exactement... alors, comme je disais, le Christ était toujours avec moi. Je ne le voyais pas spécialement, mais le Christ était toujours là près de moi. Et donc, j'étais à Angers. Et il y a un jour où je me réveille un matin, donc le lendemain d'une soirée. Blackout total, forcément, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé la veille. Je suis dans un appartement, je ne sais pas à qui il est, avec des gens que je connais à peine. Et je rentre chez moi à pied en me perdant un petit peu parce que je ne savais pas où j'étais. Et là, j'ai eu envie de mourir, en fait. J'ai vraiment eu envie de mourir.
Oui.
Et je vais essayer de ne pas être trop émue, mais ceux qui connaissent peut-être la dépression ou des moments noirs peuvent comprendre, mais voilà, cette envie de plus rien n'a de couleur et l'envie de mourir. Et je me suis imaginée morte. Et là, j'ai vu ma mère pleurer. Je me suis dit, je ne peux pas lui faire ça. Elle a tellement donné d'amour pour moi, je ne peux pas lui faire ça. Et j'ai vu mes amis pleurer. Je fais, mais Alice, tu peux pas penser ça, vraiment, tu peux pas faire ça. Allez, essaye de reprendre sur toi, mais j'y arrivais pas. Et là, j'ai vu le Christ pleurer. Comme je voyais ma mère pleurer, j'ai vu le Christ pleurer. Mmh. Pleurer, mais vraiment d'empathie, de tout l'amour qu'il avait pour moi, et qui vraiment me disait, mais je comprends ta souffrance, et j'ai de la peine pour toi, et moi aussi je veux que tu sois heureuse. Donc, et il pleurait avec moi. Donc c'était vraiment c'était de l'amour, c'était de la miséricorde, c'était de l'empathie. Et donc là, j'ai fondu en larmes. Oh, oui. Je suis rentrée chez moi en courant. J'ai pleuré pendant 3 jours et j'étais là et j'ai dit à Dieu, mais du coup, c'est très gentil de pleurer pour moi, mais comment je fais pour être heureuse, moi? c'est, je veux bien qu'on pleure ensemble, c'est bien, mais c'est quoi après, quoi? Et là, dans ma petite chambre, parmi toutes les affaires étudiantes que j'avais, c'était un bazar, il y en avait partout, des vêtements, des copies, etc. Il y avait la Bible. Et à ce moment-là de détresse où je demandais à Dieu, mais comment on fait pour être heureux? Alors, essaye de me redonner le goût de la vie.
Bible avec toi.
Et j'avais une Bible, c'est la Bible que mon père m'avait passée. Ah, oui. Quand je dis que mes parents m'ont donné tellement, que mon père m'avait passée un jour pour une retraite, il me l'avait prêtée. Et je ne sais pas pourquoi, au moment de déménager de chez mes parents pour mes études, je l'avais mise dans la valise. Et elle était là avec moi. Et à ce moment-là, j'ai fait, mais Alice, depuis que tu es petite, tu as une famille chrétienne. Et tu sais que toutes les réponses à tes questions, bah Dieu les a, et c'est dans la Bible qui te parle. Toutes les retraites me sont revenues en tête, tous les moments de pèlerinage, j'ai fait, mais tu le sais que Dieu veut ton bonheur et qu'il te parle dans sa parole. Et donc, qu'est-ce que t'attends? Lis la Bible et vas-y, maintenant chemine avec Dieu. Et j'ai fait cette promesse à Dieu ce jour-là que peu importe ce que la vie me donnera à vivre, je serai toujours avec lui. Et aujourd'hui, je renouvellerai cette promesse. Je ne sais pas comment dire, mais je sais en tout cas, je dirais plutôt à Dieu, je sais que tu seras toujours avec moi. À ce moment-là, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas t'abandonner, mais je sais que toi, tu ne m'abandonneras jamais. Et voilà, magnifique. On cheminera ensemble. On cheminera ensemble quoi qu'il arrive, peu importe si je tombe ou quoi.
Mais ça, c'est magnifique parce que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas tout de suite qu'il sera avec nous jusqu'au bout. On peut l'abandonner, mais lui, non. Il a une alliance et c'est formidable que déjà à cet âge, tu le saches.
C'est une grâce immense. Donc à 18 ans, j'avais 18 ans depuis 2 ou 3 mois, parce que j'étais née en août et avec la rentrée. Enfin bref, voilà. Et donc j'avais 18 ans depuis quelques mois et là, j'ai eu cette grâce de sentir que Dieu était avec moi, qu'il m'aimait et qu'il ne m'abandonnerait jamais. Et à partir de là, c'est pas devenu rose tout de suite, parce qu'après, il faut remonter la pente. Et ça a pris du temps.
Il y a plein de petites montagnes.
Et puis on redescend, on rechute, et puis on remonte. Mais vraiment, voilà, ce moment, ça a été le moment déclencheur où j'ai décidé de changer ma vie. Sauf que quand on a pris des mauvaises habitudes, on ne les change pas du jour au lendemain, il m'a fallu du temps. Plusieurs mois où déjà j'ai eu la chance de fréquenter des personnes beaucoup plus saines et raisonnables. Mais du coup, voilà, voulant vivre avec Dieu, il fallait aussi que moi, dans ma vie, je fasse des choix. Il y a des personnes peut-être qu'il ne fallait pas fréquenter, qui n'allaient pas forcément m'aider. D'autres qui allaient me soutenir. Et donc, c'est ainsi que j'ai rencontré des amis extraordinaires qui notamment m'ont aidé à arrêter de fumer, à me remettre au sport, à diminuer ma consommation d'alcool. Mais parce qu'on était tous ensemble, on prenait soin des uns des autres, etc.
Et ça a pris du temps ou ça a été assez facile?
Non, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Les deux premières années, mon année de 18 et 19 ans, ont été laborieuses avec des hauts et des bas, avec des rechutes, avec... des moments où je me détestais et puis Dieu me rappelait que mais moi je t'aime, je fais ok d'accord, alors on recommence et on continue et on marche et petit à petit en fait c'est vraiment la persévérance dans réussir à avoir dans la tempérance et toujours cette persévérance pour arriver à garder Dieu avec soi et avancer. Et en fait pour moi je voulais citer juste un livre qui m'a énormément aidée à ce moment-là, parce que je suis allée me confesser, où j'ai tout lâché au prêtre. Et ce prêtre m'avait conseillé le livre « Comment pardonner » de Jean Monbourquette. Et Jean Monbourquette qui est prêtre et psychologue. Et son livre « Comment pardonner » est extraordinaire parce qu'il m'a... déjà, il est très facile à lire. C'est vraiment un langage commun qui parle à tout le monde. Et il m'a énormément aidée du coup à pardonner, à me pardonner à moi-même et à me réconcilier avec le Christ par rapport à tout ce que j'avais vécu avant et petit à petit à me réconcilier avec l'Église parce que j'avais eu quelques colères contre l'Église quand j'étais plus jeune pour différentes raisons. Et donc, vraiment, c'est aussi pour ça que j'avais lâché la messe. Et à la messe, j'ai commencé à y retourner le dimanche parce que je voulais Christ. Je voulais être avec Christ. Je voulais être en communion avec Christ. Donc, pour moi, la messe, c'était l'Eucharistie. C'était vraiment important. Mais à ce moment-là, j'avais encore une colère par rapport à... Voilà, peut-être certaines personnes de l'Église m'avaient contrarié enfant et j'avais cette colère-là qui faisait que la messe, pour moi, c'était juste Christ et moi. Et petit à petit, donc j'ai passé 3 ans à Angers, puis après j'ai passé 2 ans à Bordeaux, et à Bordeaux, j'ai emménagé juste à côté d'une paroisse qui était animée par la communauté de l'Emmanuel, et c'est là où j'ai vraiment vécu ma réconciliation avec l'Église, qui est belle et que j'aime de tout mon cœur. Et c'est vraiment... Ces 2 années à Bordeaux avec la communauté de l'Emmanuel, c'était vraiment un chemin de foi aussi, parce qu'à ce moment-là, c'était plus juste moi et le Christ, c'était moi, le Christ, l'Église, mes frères et sœurs, et ensemble. Et là, c'est déjà...
Mais il a fallu ce contact.
Et il a fallu ce
avec,
contact.
Avec, entre toi et Christ.
Et il m'a fallu ce contact entre moi et Christ au départ. Ça, c'est vraiment le point de départ. Et petit à petit, c'est vraiment... J'ai pris mon bâton de pèlerin et puis on avance. Et puis on avance dans la foi, petit à petit, pour mettre toujours Christ au cœur de sa vie. Alors après, voilà, moi, je me cherchais aussi professionnellement, les études, etc. À Bordeaux, c'était pour mon master en communication. Je savais toujours pas ce que j'allais faire plus tard. Mais bon, j'aimais bien la communication. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Et donc voilà, Bordeaux, réconciliation avec l'Église. Où j'ai pu participer, aider dans quelques assos ou autres. Et c'est surtout à Paris. Paris, j'ai commencé à avoir mon premier emploi. Et là, pareil, une paroisse très dynamique à côté de là où j'habitais, des personnes extraordinaires. J'ai participé au parcours Alpha. Je ne sais pas si ça parlera à quelques personnes, mais le parcours Alpha, c'est un parcours chrétien. Il me semble qu'il est proposé à la fois chez les protestants, enfin chez tous les chrétiens.
J'en ai entendu parler, mais je ne connais pas.
Et c'est organisé sous forme de rencontres. Nous, c'était tous les mardis soirs, pendant 2 mois, tous les mardis soirs, on se voyait. Il y avait un thème, ça pouvait être la foi, l'amour, l'Église, voilà, il y avait des thèmes. Je ne me souviens plus exactement des thèmes, mais donc chaque semaine, on était autour d'une table avec d'autres personnes. Et puis on échangeait autour de ce thème-là. Et en fait, c'était pour confronter un peu chacun notre manière de vivre notre foi. Et ça m'a fait énormément grandir aussi dans la foi.
Beau partage.
Des partages extraordinaires, très enrichissants avec d'autres jeunes. Donc là, j'ai rencontré d'autres jeunes qui avaient comme moi autour de 25 ans, 25-30, et qui aussi étaient avec le Christ. Je fais, mais ok, donc on échange nos manières de voir les choses, et c'était vraiment enrichissant. Mais mon travail me prenait beaucoup. Je me donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon travail. Et j'ai resombré dans la déprime.
Ah oui.
J'avais le rythme, quand on est à Paris, le fameux rythme métro-boulot-dodo, où en fait, il n'y a plus d'espace de temps pour vivre. Et en fait, je partais le matin.
Tu n'avais plus ce contact direct avec Christ.
C'était terrible. Ce qui était terrible, et peut-être que ça en parlera à d'autres, c'est que j'allais à la messe en semaine. J'allais à la messe le dimanche, j'avais ma prière personnelle, et malgré ça, je pleurais le matin en allant au travail, j'avais une boule au ventre toute la journée, et je pleurais le soir à l'idée que le lendemain allait arriver. Donc en état de déprime totale. Et j'étais là, mais pourquoi? Pourtant j'ai l'impression... Et en fait, maintenant que je revois un peu mon parcours de vie, généralement, quand je suis dans des états comme ça... C'est que je ne suis pas vers ce à quoi le Christ m'appelle.
Oui.
Et qu'il est temps de changer quelque chose.
C'est
un moment de transition. Oui. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais le projet de partir au JMJ de Panama. J'étais volontaire, je m'étais inscrite en tant que volontaire dans l'organisation. Je parlais espagnol et anglais. Donc j'allais au Panama en tant que volontaire. Et j'avais pris mes congés. Et finalement, c'était une décision que j'avais déjà derrière la tête, mais que je n'assumais pas. Et finalement, là, me voir dans cet état, j'ai été aidée aussi, j'ai été accompagnée. J'ai pris la décision, j'ai posé ma démission, j'ai quitté mon appartement, j'ai tout quitté. Je suis partie au JMJ de Panama en 2019. Oui. J'avais plus rien. J'ai laissé 2-3 affaires chez les parents, j'ai tout quitté, j'avais pas d'affaires, j'avais plus rien. J'ai pris le minimum dans mon sac à dos. J'ai fait, on part au JMJ de Panama et je ne rentrerai pas et on verra où Dieu me guidera.
On va s'arrêter et faire une pause musicale. À tout de suite. vous êtes en route pour le JMJ et on attend la suite.
Et on attend la suite. Alors là, si je dois bien dire quelque chose, c'est que quand on prend des décisions, avant de partir au JMJ, j'avais fait une semaine de retraite auprès des frères jésuites pour apprendre un petit peu les bases du discernement de Saint-Ignace de Loyola. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui est claire quand on est en discernement, c'est que quand on prend la bonne décision pour Dieu, on a de la paix intérieure et de la joie intérieure.
C'est la confirmation du Seigneur.
Oui. Totalement opposée à ces moments de déprime que j'ai pu vivre. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un réalignement de boussole, hein, ces moments-là. Je sais que quand ça ne va pas bien, il faut réaligner. Et donc dans l'avion pour les JMJ, j'ai cette joie immense. Voilà, c'est vraiment cette paix intérieure et cette joie immense. Et à la fin des JMJ, donc les JMJ, moment extraordinaire, je recommande vraiment à tous les jeunes qui nous entendent, ou alors si dans vos familles vous avez des jeunes qui hésitent, je sais que c'est un coût très, très élevé, surtout en venant de Tahiti, mais les journées mondiales de la jeunesse autour du pape sont extraordinaires et très très riches à vivre en rencontres. J'ai rencontré d'autres jeunes de fervents chrétiens et catholiques et ça nourrit vraiment. Mmh. Et à la fin des JMJ, voilà, je suis là et je n'ai pas de retour du coup et je n'ai rien prévu. Et petit à petit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce voyage, mais j'ai vraiment vu Dieu me guider tout au long du chemin, tout au long des décisions que j'ai pu prendre. C'est-à-dire que j'ai voyagé d'abord avec des jeunes des JMJ. Il y avait notamment des Brésiliens, mais des Français. On est resté au Panama. Après, moi, j'ai travaillé un petit peu au Panama, histoire de faire le point, et puis en fait de rencontrer d'autres personnes et de découvrir la foi au Panama, qui est très forte. Donc j'ai voyagé un peu dans des pays à côté. Et suite à des recommandations d'amis rencontrés sur place, ils m'ont parlé de cette idée de venir à Tahiti en bateau. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas ? Donc par la prière...
C'était des amis qui avaient un bateau ?
Eux qui voyageaient en bateau aussi, mais qui fait comme j'ai fait, c'est-à-dire de rejoindre un équipage. De rejoindre un équipage pour participer à un trajet. Mmh. Et en fait, voilà, pour dire que vraiment je mettais Dieu au cœur de ma vie, enfin j'essayais au maximum... Lui était bien présent. J'avais cherché un bateau, je n'avais pas trouvé de bateau. Donc je me suis dit, Alice, laisse tomber, voyage et puis rentre chez toi. Et donc j'ai commencé à voyager au Costa Rica et au Nicaragua. Et puis au Nicaragua, voilà, je sens qu'il y a la petite boule noire intérieure qui revient, qui fait tu ne vas pas sur la bonne route. Donc je prends un long moment de prière. Et là, je fais non, non, Alice, tu retournes au Panama, tu trouves ton bateau, tu dois partir en bateau. Voilà, c'est comme ça, c'était les tripes qui parlaient. Oui. J'ai pris un bus de nuit et de jour, pendant 2 jours demi-tour, on retourne au Panama. Et bien là, j'ai trouvé mon équipage et mon bateau 3 jours plus tard.
Et comment tu as fait ?
Je suis allée dans des marinas où il y avait des annonces pour retrouver des équipiers, etc., pour les bateaux. Et voilà, pour dire que par la prière, parfois, on a vraiment la réponse à nos questions. Beaucoup au ressenti, mais au ressenti par l'esprit et pas par la prière. Enfin, c'est vraiment, vraiment très fort. Donc voilà, moi qui avais abandonné l'idée de trouver un bateau, je rentre, je retourne au Panama. Et puis là, voilà, je trouve un bateau très rapidement. Après, voilà, il y a toute la préparation de la traversée. On arrive à...
Alors, c'était quoi comme bateau ?
C'était un voilier, oui. Un voilier petit, de 43 grand. Pieds.
Ah oui, quand même.
Oui, c'est une grande taille. Mais voilà, bon, la traversée en bateau était extraordinaire. Mais tout s'est très bien passé. Mais après, une fois que j'arrive en Polynésie, donc déjà, bon, la découverte de la Polynésie, ça a été un coup de cœur. Et je tiens à le souligner ici sur les ondes de la radio Mariano Teao. Mais vraiment, tout ce que j'ai découvert ici en Polynésie, au niveau de la foi notamment, m'a énormément nourri sur mon chemin personnel. Et vraiment, je rends grâce à Dieu de vous avoir rencontrés tous.
Oui. C'est bien de le dire parce que souvent, à Tahiti, on doute de nous-mêmes. On veut toujours aller voir ce qui se passe ailleurs, mais c'est bon aussi.
C'est bon. Mais... Après, c'était un prêtre, il me semble, qui me disait qu'il y avait des étudiants qui allaient faire leurs études en France, qui avaient perdu la foi au Fénoua, et le fait, en France, de voir une autre manière de vivre sa foi, leur avait fait regagner, retrouver la foi et le chemin de l'Église. Mmh. Mais je pense qu'au-delà Alors oui, l'Église en Polynésie, moi, m'a profondément nourrie et m'a profondément marquée. Je pense que c'est aussi très intéressant de voir comment vivent d'autres Églises et de voir d'autres manières de vivre la foi. Parce que voilà, on a chacun nos cheminements, nos personnalités, et on va peut-être se retrouver dans une Église plutôt que dans une autre où... voilà, j'avais mes cousins qui habitaient en Vendée quand ils venaient en région parisienne et qu'ils allaient à la messe avec nous. Ils trouvaient que c'était génial alors que chez eux ils aimaient pas du tout. Enfin, voilà, faut jamais s'arrêter quand on veut trouver Dieu, il faut le chercher.
Oui, c'est ça.
Donc faut pas hésiter à aller voir. Et je pense que oui, le fait de bouger, de voir un peu ailleurs, etc., c'est d'autres manières de vivre sa foi et ça peut être très très enrichissant pour tout le monde. Mais du coup, cette arrivée à Tahiti a été merveilleuse. Mais après, voilà, il y a un moment, je me disais, faut arrêter de voyager. C'est bien de voyager, mais Alice, c'est quoi le sens de ta vie ? Encore cette question-là. Et donc voilà, comme je précisais en introduction, quand je me suis présentée, j'ai travaillé ici dans l'éducation, dans les études aussi, études quantitatives. Enfin, bref, j'ai voilà, travaillé dans l'éducation, que ce soit auprès des adolescentes. Quand j'étais au foyer Maria Noté Tiatouli. Les jeunes de l'ICEP, c'était des moments très, très enrichissants par rapport au parcours professionnel. J'ai commencé une thèse. Et si j'ai commencé une thèse, c'est parce que... donc déjà, j'étais encouragée par mon laboratoire à Bordeaux. Dans le milieu de la recherche, quand on travaille à l'université et dans le milieu de la recherche, généralement... c'est des personnes passionnées qui se donnent corps et âme pour leur cœur de recherche. Et en fait, moi, c'était ça qui m'attirait. C'était vraiment de me consacrer pleinement, de consacrer ma vie à un objectif. Et en fait, au bout de quelques mois, j'ai encore cette boule noire qui revient en moi, qui me montre que ma boussole n'est plus alignée sur Dieu, la dépression qui ressurgit, la déprime. Et là, je me dis, mais ça va pas, j'ai pourtant l'impression d'avoir mis Dieu dans ma vie, je comprends pas. Pareil, je me suis fait accompagner. Pour moi, c'est important de le souligner aussi. J'ai vite compris que quand on a des démons intérieurs, parce que moi je les appelle comme ça maintenant, c'est des démons intérieurs qui me font croire que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Donc quand on a ces démons intérieurs-là, on n'arrive pas à les combattre seul. Oui, Dieu est là. On a aussi nos frères et sœurs. La confession m'a beaucoup aidée et je suis allée voir une psychologue qui m'a énormément aidée et qui m'a aidée à prendre la décision d'arrêter la thèse. C'est-à-dire que je suis allée la voir, je savais déjà que je voulais arrêter la thèse. Mais elle m'a aidée à confirmer ce choix. Et au bout de quelques séances, elle me dit « Bon, maintenant Alice, on va revenir sur la première chose que vous m'avez dit en arrivant. » J'ai fait « Ah bon, c'est quoi ?» vous êtes rentrée, vous m'avez dit que vous posez des questions sur votre vie, notamment pourquoi pas la vie religieuse, se donner à l'église, etc. Et là, j'ai fait, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié déjà. Et elle a dit, voilà, comme c'est la première chose que vous m'avez dit, je pense que c'est important. Et là, comme une lumière, et la joie est revenue, hein, la joie, elle est revenue très vite. Comme une lumière, j'ai fait, mais oui, en fait. En fait, il y a quelque chose là-dedans. Et ce désir de me donner totalement pour un objectif dans la thèse, en fait, c'était mon désir, mon réel désir, c'était de me donner pour Dieu. Et je n'arrivais peut-être pas encore, et je pense que c'est un chemin qui me fallait parcourir. Il me fallait parcourir tous ces chemins-là. Je le vois aujourd'hui parce que ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses personnellement. Mais à ce moment-là, j'ai fait « Ok, on va rentrer dans un vrai discernement spirituel ». Donc je suis allée voir les sœurs Clarisse. J'aurais dit « Là, je viens pas vous voir juste pour une retraite, il faut m'accompagner. Là, j'ai besoin d'aide parce que je sens qu'il y a quelque chose avec Dieu. Est-ce qu'il y a un appel mais il y a quelque chose. » Et c'est vrai que là, je me suis souvenue de toutes les fois. Depuis ma rencontre de Christ que j'ai racontée là, quand j'avais 18 ans, il y a eu plusieurs fois des moments où la vie religieuse m'attirait. Quand je voyais une religieuse dans la rue, ou même quand j'étais à Paris, j'en avais parlé à un prêtre. J'avais dit, la vie religieuse, pourquoi pas ? Il m'avait dit, réfléchis. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait longtemps que j'en parlais, mais que j'en parlais sans vraiment me préoccuper de la question.
Oui, mais tu as cette attraction.
Mais j'avais cette attraction-là. Oui. Et donc, je me suis dit, bon, je me focalise vraiment là-dessus, sur ce discernement. Savoir est-ce que oui ou non je suis appelée à la vie religieuse. Alors ça fait un peu plus d'un an et je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, mais grâce à ce discernement et beaucoup par la prière, Dieu m'a guidée à vivre une expérience chez les sœurs missionnaires de la charité, qui sont la congrégation de Mère Teresa.
En France ?
Alors, c'était à Madrid. Oui. Je voulais faire en France, mais c'était à Madrid parce que c'est Madrid qui a la maison mère pour cette partie de l'Europe. Extraordinaire, expérience extraordinaire. C'est une congrégation lumineuse, à la fois contemplative et apostolique. C'est vraiment une super congrégation. Et là, j'ai toujours essayé dans cette année de discernement d'être dans la même démarche de quand j'étais pendant mon voyage après les JMJ de Panama, c'est-à-dire par la prière, vraiment cette prière-là, écouter ce que le Seigneur me dit de faire ou me dit là où il me dit d'aller. Et vraiment, cette histoire d'aller voir les sœurs missionnaires de la charité, ça m'est venu dans un moment de prière, pendant une messe à la communauté chinoise, un endroit où j'aime beaucoup vivre la liturgie. Et j'ai eu ce désir de oh, « mais en fait, les sœurs de Mère Teresa, et pourquoi on n'irait pas aller les voir là ?» Deux mois après, j'étais à Madrid. C'était radical. C'était « il faut que j'aille là-bas. Quand est-ce que j'y vais ?» Ben maintenant, on y va. Et donc, cette expérience ne m'a pas convaincue à la vie religieuse, mais cette expérience m'a convaincue que Dieu est au cœur de nos vies, doit être au cœur de nos vies, et que ma vie, je veux la consacrer à Dieu. Ça, si j'avais peut-être encore le doute avant, là, j'en ai vraiment plus le doute. Et ces sœurs-là, donc c'est une congrégation que je trouve magnifique, elles vivent aussi grâce à beaucoup de volontaires. Et j'ai vu des volontaires venir les aider, il y avait des couples. Des jeunes couples voilà, qui avaient même pas 30 ans et qui venaient aussi pour servir Dieu, pour servir les pauvres et pour servir Dieu à travers les pauvres. Et puis il y avait aussi des laïcs consacrés. Et puis en fait, je me suis réouverte. Comme je voulais consacrer ma vie à Dieu, je voyais que la vie religieuse. Et là, cette expérience, en fait, paradoxalement, m'a réouvert en disant mais en fait, il y a tellement de vocation.
Oui.
Tellement de vocation pour Dieu. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas encore, j'ai une espérance vraiment forte sur là où Dieu va m'emmener, je ne sais pas, mais j'ai hâte, j'ai cette impatience et je sais qu'il m'emmènera à mon rythme. Si depuis le début, voilà, j'ai des moments difficiles et des moments de joie, c'est parce qu'il faut passer par là et je me vois bien que je me construis en fait petit à petit avec ces moments difficiles et ces moments de joie en résonance. Et je pense que le Seigneur voilà me construit et me forme petit à petit pour un projet qui est voilà la vie religieuse, la vie maritale, être laïque consacré, je ne sais pas, mais je sens bien que je suis comme dans mon enfance modelée petit à c'est petit ça. Et oui. On verra bien ce qui va se passer.
Oui. Qui est sur la table du potier.
Exactement. Exactement.
Oui. Donc, il nous reste 2 minutes avant la prochaine pause. Donc, tu pars en France bientôt.
Oui.
Et quelle sera... tu as déjà prévu au moins une première étape.
Pour la suite ?
Oui.
Oui. Oui. Ma première étape... Alors, je rentre en France le 24 juillet. Avec une grande tristesse de quitter le Fénois.
Oui.
Donc déjà retrouver ma famille. Et puis pour la suite, je ne sais pas. Est-ce que je vais chercher un travail au plus près de l'Église ou est-ce que je vais vivre, parce qu'on a cette chance en France d'avoir beaucoup de monastères, d'abbayes et de congrégations qui proposent des temps longs aussi pour vivre avec eux, vivre cette expérience. Donc mon étape, parce que comme tu dis, il faut avoir un cap. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Il faut avoir un cap et il faut savoir au moins la prochaine marche. Où est-ce qu'on va ? Il n'y a pas besoin de voir les autres. Dieu ne les éclairera pas. Il n'y a pas besoin de voir les autres marches. Ma prochaine marche, ça sera tout simplement une retraite. Soit avec les jésuites, soit avec les sœurs bénédictines de Montmartre, du Sacré-Cœur de Montmartre Paris.
Oui.
Donc ça, c'est aussi une grâce, une bénédiction d'avoir mes parents en région parisienne. C'est d'être à cette proximité-là. Donc Montmartre, il y a une adoration perpétuelle depuis plus de 100 ans. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine, d'avoir le Saint-Sacrement qui est exposé. Donc jour et nuit, des gens se relaient. Et donc là-bas, ils proposent des retraites avec des sœurs. Et donc je vais sûrement passer peut-être 7 jours, 10 jours avec elles. Voilà, et profiter de ce moment-là.
Je ne connaissais pas ce Montmartre. C'est pour nous, à Tahiti, qui sommes loin, c'est souvent associé à d'autres images.
Oui, mais il y a l'image touristique de Montmartre. Mais c'est vrai que moi, la basilique de Montmartre, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, pour moi, c'est aussi un endroit fort personnellement, puisque quand j'habitais à Paris, j'aimais aller à la messe tous les jours, sauf que je travaillais trop, je n'avais plus de vie. Et quel est l'endroit où il y a la messe à 22h le soir, à la basilique de Montmartre, à 22h30.
En fait, l'adoration perpétuelle.
L'adoration perpétuelle. Ouais. À 22h30, les portes de la basilique se ferment et ceux qui vont faire l'adoration de nuit, du coup, restent dans les dortoirs à côté de la basilique pour faire l'adoration de nuit. Et donc, cette basilique est un endroit extraordinaire de recueillement, malgré tout le tourisme, etc. Ouais.
Merci Alice. On va faire une petite pause. Alice, merci pour ce témoignage. C'est merveilleux de voir les voies du Seigneur dans la vie de chacun. C'est tellement différent d'une personne à l'autre. Mais le chemin que tu vis, et c'est aussi un chemin de patience.
Oui.
Et donc, dans cette dernière partie de notre émission, où je vais te demander... de donner quelques messages à diverses personnes. Je pense que, selon ton expérience, tu as des messages à donner. Aux enfants de Dieu, qui vont à l'église, mais qui n'arrivent pas vraiment à trouver le sens, un sens à leur vie. Donc, qu'aurais-tu envie de leur dire ? Sans que ce soit vraiment un conseil, mais qu'aurais-tu envie de leur dire pour les encourager ?
Alors, pour tous ceux qui se cherchent comme moi, je me suis cherchée, l'une des clés pour moi, c'est de ne jamais perdre l'espérance. Sauf que l'espérance vient de Dieu. Et donc, ne jamais perdre ces moments de prière et de rencontre. Et que même dans des moments de... Même si on est croyant, pratiquant, même si on a des moments parfois de désert, on a l'impression de pratiquer sans pratiquer, d'être là sans être là, d'être là mais Dieu est-ce qu'il est là. Et en fait, de toujours avoir cette persévérance et cette espérance que c'est juste un moment à passer. Et on a juste à être à l'écoute de Dieu. Et je pense que l'exposition au Saint-Sacrement est... Alors ça, d'ailleurs, moi, je rends grâce. C'est extraordinaire d'avoir des adorations ici, d'avoir le Saint-Sacrement qui est exposé à Mariano Teao, à la cathédrale, à des endroits, mais c'est... Profitez-en, en fait. Quand on est perdu ou quand on est un peu... on est à bout de souffle. Déjà, on peut dire à Dieu qu'on n'en peut plus. Alors ça, moi, maintenant, je ne me gêne plus du tout.
Oui, il faut le dire.
de dire à Dieu, là, j'en ai marre. Mais alors, parce que je me connais aussi et que... Voilà, je sais que j'essaie d'être au maximum dans la persévérance, mais il y a des moments où on n'en peut plus. Et l'abandon à Dieu... L'abandon à Dieu, il devrait se faire tous les jours et à tout moment. C'est notamment avec Mère Teresa que je revivais ça avec sa spiritualité, c'est de, de n'être rien, de n'être que le stylo dans la main de Dieu, et de n'être que le canal avec lequel Dieu fera passer son amour. Et en fait, dans cette démarche-là, pour pouvoir être dans cette démarche-là, pour pouvoir être avec Dieu et du coup avancer dans la vie avec Dieu, et ben parfois quand on est à bout de souffle, juste s'asseoir dans une église.
Oui.
Et être devant le Saint-Sacrement, même si le tabernacle est fermé, qu'il n'y a pas d'adoration. Hein. Être juste là. Et dire à Jésus, voilà, moi je ne sais plus quoi faire, mais je suis là. Et parce que j'avais envie d'être avec toi. Et voilà. Et ça, c'est quand on est dans des moments de doute ou des moments de questionnement, je pense que ces petits moments-là de pause avec Jésus, eh ben, c'est un geste d'amour que Dieu aime, et parce qu'on l'aime, on le pose. Et ça, voilà, ça, je pourrais dire ça aux enfants de Dieu, comme message.
À ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Ah, bonne question. À ceux qui ne connaissent pas Dieu, j'aimerais déjà leur dire que Dieu les connaît, eux.
Ah oui, bonne réponse.
Dieu les connaît déjà, Dieu les a façonnés. Alors, je racontais une petite histoire qui m'avait profondément marquée et qui est une question en suspens encore pour moi. Dans mes voyages, donc j'ai travaillé un petit peu au Panama dans une auberge de jeunesse, et j'ai beaucoup parlé avec une des gérantes de l'auberge de jeunesse qui était d'origine espagnole et qui vivait là-bas. Et elle me voyait avec ma foi, elle me voyait lire la Bible, elle me voyait... Et puis un jour, elle a fondu en larmes et elle m'a dit « Mais pourquoi toi et pas moi ? Moi, j'aimerais bien avoir la foi, en fait. »
Ah oui.
En fait, elle m'a expliqué, elle m'a raconté qu'elle avait grandi dans une famille catholique, elle avait pour elle c'était n'importe quoi, et que finalement limite elle regrettait, elle aimerait bien avoir la foi. Et ça m'avait profondément touchée parce que je savais pas quoi lui dire, et à part lui dire que Dieu l'aimait et que voilà, que c'est dans la prière qu'on rencontre Dieu, et donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, je pense qu'au fond de tous les cœurs des hommes et des femmes de ce monde, on a une soif de Dieu. Et je pense que voilà, dans le fond, ce témoignage-là de cette fille, Yoon, elle s'appelait au Panama, m'a bien montré qu'on a tous dans le fond de soi, on a une soif de Dieu. On a envie d'amour, et Dieu est amour. Et on a cette soif de Dieu, et Dieu a cette soif de nous. Et donc à ceux qui ne connaissent pas Dieu... c'est si vous avez envie de le rencontrer, Dieu, il a déjà fait un pas vers vous. Et si ceux qui ne connaissent pas Dieu, et j'ai autour de moi beaucoup d'amis qui sont athées ou non-croyants, et c'est vrai que j'essaye de prier pour eux parce que j'aimerais qu'ils goûtent cette saveur de l'amour de Dieu. Mais je pense que c'est se mettre en présence, se mettre à l'écoute de l'amour et être en lien avec Dieu, c'est tellement une joie. c'est tellement merveilleux que je le souhaite à tout le monde. Oui, c'est vraiment...
Il n'y a pas de mots pour l'expliquer.
Ah non. Oui, c'est non, il n'y a pas de mots. Ça, c'est vrai.
Ouais. Et si quelqu'un vous demande qui est Dieu ?
Il est amour.
Amour, avant
amour.
Tout.
Là où il y a de l'amour, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a de l'amour. Et... ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que le mot amour, je pense qu'il est utilisé à tort et à travers, dans toutes les sauces. L'amour de Dieu, et l'amour dont on parle quand on parle de Dieu, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour de miséricorde, c'est un amour qui dépasse tout ce qu'on pourrait même concevoir, qui est indescriptible, et c'est surtout un amour libre. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé encore, mais j'ai toujours, dans ma foi, j'ai toujours été habitée par cette soif de liberté. Et je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut me la donner. Il n'y a que Dieu qui sauve. Et cette soif de liberté va avec cette soif de l'amour. Et voilà, Dieu est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est lui qui nous mènera vers le meilleur en fait, de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes. C'est lui qui nous mènera vers nous-mêmes tout court. On n'a pas à être le meilleur de nous-mêmes. C'est lui qui nous donnera à être nous-mêmes. Mmh. Et on est... voilà, on est à être. On n'a pas à chercher à être le meilleur ou... Non. Juste, Dieu nous donne à devenir nous-mêmes, et nous-mêmes, c'est merveilleux, parce qu'on est une création de Dieu.
Mm-hmm.
Et voilà, Dieu, pour moi, c'est vraiment l'amour avant tout, mais l'amour avec un A divin.
Oui, alors, tout à l'heure, dans la première ou deuxième partie, tu parlais de ta rencontre avec Jésus.
Oui.
Donc, ça a été ta première expérience de son amour.
Je pense enfant en avoir vécu. Mais à ce moment-là, elle m'a été bouleversante. À ce moment-là, c'était une rencontre bouleversante. Voir le Seigneur qui était d'une telle empathie avec ma douleur, il y avait aucun jugement, il y avait parce que il aurait pu avoir le jugement de valeur, il y avait de quoi faire.
C'est ce qu'on découvre, qu'il ne nous juge jamais.
Ah non, oui. Il juge pas. Vraiment, il pleurait avec moi et c'est comme si c'était un ami qui m'embrassait, qui me disait mais je suis désolée que tu sois aussi triste. Moi aussi, je veux que tu sois heureuse. Et il me disait pas va faire ça, va faire ça. Non, il était avec moi, en me disant, je suis désolée. Cet amour de Dieu miséricordieux est extraordinaire. Mais je pense l'avoir vécu plus jeune, dans ces moments, comme je disais, des moments de retraite de jeunes, des moments, notamment par des moments d'adoration, je pense. Je pense que cet amour de Dieu, j'avais dû l'avoir en cours de pèlerinage ou en cours dans mon enfance. C'est pas venu comme ça. Mm-hmm. Mais voilà, là c'était bouleversant.
Mm-hmm. As-tu eu d'autres rencontres avec son amour?
Oui, je peux en raconter une. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que j'ai arrêté la thèse de doctorat. C'est parce que j'ai fait un trajet en France pour rencontrer, pour faire réunion de travail et travailler avec mon directeur de recherche. Moi, j'étais à fond, j'étais heureuse d'aller le voir. C'était quelqu'un d'extraordinaire, un homme vraiment bon et très bienveillant et très bon accompagnateur pour la recherche. Et en fait, sur ce trajet-là, donc j'étais en France et j'en ai profité pour voir un petit peu la famille. Il y a un dimanche, je pars en voiture pour aller voir des cousins à Nantes. Donc je pars de Paris pour Nantes. Comme d'habitude, je me perds dans Paris, donc je suis en retard pour sortir, et c'était dimanche, et j'avais prévu de faire un stop à la cathédrale de Chartres, que je trouve magnifique, et je voulais aller à la messe là-bas. C'était à 8h ou 9h, quelque chose comme ça. Donc je suis sur l'autoroute, j'ai déjà du retard, je m'approche de Chartres, je vois que la messe a déjà commencé depuis 5 minutes, et en plus je vais être en retard chez mon cousin. Donc je me dis, bon, désolé mon Dieu, il n'y aura pas de messe aujourd'hui. Ça m'embêtait quand même, mais voilà. Et donc je passe la sortie, donc je loupe la sortie pour aller à Chartres. J'ai eu un tiraillement au cœur, mais vraiment, j'ai eu un vrai tiraillement au cœur de vraiment comme si j'avais claqué la porte au nez à Jésus. Je sais pas comment dire, mais il m'en voulait pas. Jamais de jugement, jamais de jugement. J'ai eu c'est comme si là c'était Jésus qui pleurait en disant. Tu m'abandonnes, tu viens pas me voir, tu préfères aller voir ton cousin que moi d'abord. Enfin, et j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai fait ok, j'arrive. Donc j'ai fait demi-tour, j'ai pris une autre sortie. Je suis arrivée à la cathédrale, donc j'avais loupé la moitié de la messe, mais j'arrive au moment de l'offertoire. Et là, je m'assois dans cette cathédrale qui est magnifique et qui était presque vide en fait pour une messe du dimanche matin, ça m'avait étonnée. Je m'assois et là, paix intérieure. Et c'est comme si j'entendais une voix qui... Je vais pas dire que j'entendais une voix, je suis pas Jeanne d'Arc, mais c'est comme si j'entendais que le Seigneur me disait « Tu seras toujours avec moi, en fait. Tu seras toujours avec moi parce que je t'aime et parce que moi aussi je t'aime, Jésus. » Et voilà. Et ce moment m'a beaucoup marquée parce que j'ai eu ce tiraillement du cœur de « Je peux pas lui faire ça, en fait. C'est terrible. » C'était très, très fort. Et voilà, donc j'ai fait demi-tour. Je suis arrivée à la cathédrale. J'ai eu la fin de la messe. J'ai pris un temps de prière avec Jésus. J'en ai rigolé et je suis repartie sur ma route et je ne suis pas arrivée en retard chez mes cousins. Tout va bien. La journée...
Formidable.
Non, mais c'est ça. Et souvent... il m'est arrivé, ça remonte un peu, mais voilà, aujourd'hui encore, je pense que ça m'arrive en fait, mais de dire « Ah, il n'y a pas le temps pour la prière. Ah bah, bon, je ne vais pas avoir le temps d'aller faire mon chapelet. Ah bah, je vais... » En fait, on a toujours le temps. Oui. Et ce qui est très dur, c'est que comme Dieu ne nous parle pas comme nos frères et sœurs nous parlent, comme les hommes nous parlent sur Terre, peut-être qu'on a... On peut sauter des rendez-vous sans s'en rendre compte en disant mais c'est pas grave, je remets à plus tard, de toute façon Dieu il est partout et tout le temps, donc je peux remettre à plus tard. Mais en fait non, en fait Dieu nous aime et donc il aime aussi passer du temps avec nous et programmer des temps avec lui dans sa journée, c'est pas à mettre en seconde zone, c'est à mettre en priorité, c'est la priorité et ça c'est très important et je l'ai encore vécu, donc c'est sur cette anecdote sur la messe où Oui, il m'a beaucoup fait rigoler.
Ben voilà, on est arrivé au terme de notre émission. Merci beaucoup. C'est très riche. Je pense que moi-même, je suis touchée, donc je suis sûre que les auditeurs le sont aussi.
Merci beaucoup, Raïssa. Je suis très heureuse parce que c'est vrai que j'ai peu parlé de la présence de Dieu dans ma vie et j'ai eu peu d'occasions d'en parler aussi parce que étant en cheminement, c'est dur d'en parler. On ne sait pas encore où Dieu nous guide et puis comme beaucoup, on est dans des moments de doute et un jour sur deux, voilà, je doute, je me pose des questions,
mais ça nous arrive toute la vie
et c'est
à différents moments. L'appel peut arriver très tard, comme il peut arriver tôt.
Oui. Voilà. Est-ce que j'ai une minute pour...
On va demander à...
J'aimerais juste lire en fait un passage du texte du pape François qui m'avait profondément marqué quand j'étais au JMJ de Panama. Donc je le lis très rapidement. Oui. Le disciple n'est pas seulement celui qui arrive en un lieu, mais celui qui commence avec décision, celui qui n'a pas peur de risquer et de se mettre en marche. Si quelqu'un se met en marche, il est déjà un disciple. Si tu restes immobile, tu as perdu. Commencer à marcher, c'est la plus grande joie du disciple, être en marche. Et ça, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on n'a jamais fini dans la vie.
Oui.
Et ben voilà, moi, continuons à marcher vers Dieu.
Oui, nous sommes en mouvement, comme l'univers ne s'arrête jamais de bouger. L'homme, l'être humain doit toujours bouger s'il veut être en bonne santé jusqu'à la fin de sa vie. Et spirituellement, c'est pareil. C'est pareil. On doit être en mouvement et constamment chercher le cœur de Dieu. C'est ce que tu fais. Et voilà, je te remercie.
Merci beaucoup à toi.
Et merci aux auditeurs. Au mois prochain, le dernier jeudi du mois. Merci.
Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
Voilà, frères et sœurs, c'était votre émission Racontez-moi Dieu dans votre vie avec Raïchaz qui avait pour invité Alice Arnoux.